Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là cet après-midi dans ce beau conservatoire pour cette rencontre qui s'annonce passionnante avec Nathalie Loiseau. Je vous la présente en quelques mots. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur Nathalie Loiseau. Merci d'être là. Madame la ministre, vous avez été ministre des Affaires européennes pendant plusieurs années. Vous êtes aujourd'hui députée européenne. Vous avez été aussi la directrice de l'ENA. Et puis, vous êtes diplomate. Vous êtes une diplomate qui a eu des postes très importants et en même temps sûrement très sensibles. Je pense notamment à ce poste que vous avez eu il y a une vingtaine d'années à Washington, au moment où la France ne s'engageait pas dans cette guerre. Et vous étiez la porte-parole de l'ambassade. Donc, vous avez dû avoir des éléments de langage pas très simples toujours à inventer et à concocter et à faire passer aux médias. Cette rencontre a lieu en partenariat avec le 1, que vous avez, j'espère, tous, qui est, alors, Madame la ministre, je vous l'offrirai tout à l'heure. Il est offert évidemment gracieusement, il est en partenariat avec Brive. Et dans ce numéro, vous pouvez trouver un texte passionnant de Nathalie Loiseau, qu'elle a fait comme une grande journaliste, parce que je lui ai demandé 3500 signes, elle a fait 3500 signes, et pour évoquer le thème central de son nouveau livre, publié aux éditions de l'Observatoire, de Muriel Beyer, qui doit être quelque part dans la salle, elle est là Muriel, qui s'appelle « La guerre qu'on ne voit pas venir ». Et je dois dire qu'en lisant ce livre assez épais, on se dit oh, « est-ce qu'on va lire un livre comme ça ?» Mais je peux vous dire quand vous ouvrez, vous découvrez tellement de choses que vous ne lâchez pas. Alors c'est un thriller qui peut vous faire un peu froid dans le dos, parce qu'on croyait qu'on savait ce que c'était la guerre. Et d'ailleurs, on voit celle, évidemment, en Ukraine aujourd'hui, cette invasion décidée par Vladimir Poutine. Et c'est peut-être la première question que je voulais vous poser, Nathalie, c'est est-ce que cette guerre, elle ressemble à ce que vous imaginiez de ce qu'est une guerre aujourd'hui ?
Alors, la guerre en Ukraine, oui. J'ai eu l'occasion... D'abord, bonsoir, pardon. Je démarre un peu vite. Bonsoir et ravi d'être ici, ravi d'être avec Eric Fotorino, que je lis et que je suis depuis longtemps. La guerre en Ukraine, je suis allée 3 fois en Ukraine depuis le début de cette année. Et je vais y retourner encore 2 fois avant Noël. C'est la guerre qu'on croyait ne plus voir. C'est-à-dire que c'est une guerre conventionnelle, au mauvais sens du terme. La première fois que j'y suis allée, c'était avant l'invasion russe du 24 février. Mais il y avait déjà une guerre depuis 2014 dans le Donbass. Et j'étais à Mariupol, un endroit qui est cher à mon cœur. Et évidemment, mon cœur saigne quand je vois ce que les Russes ont fait de Mariupol. Mais il y avait déjà une guerre depuis 2014, une guerre de tranchées. C'était Verdun. Vous aviez des hommes dans des tranchées depuis 2014 qui se faisaient face et régulièrement des tirs qui venaient des provinces soi-disant autonomes et aujourd'hui des républiques soi-disant indépendantes du Donbass et qui tiraient régulièrement sur les militaires ukrainiens mais aussi sur les civils. Sur des cibles aussi absurdes qu'une station balnéaire ou une école ou un hôpital. Et on voyait d'un seul coup quelque chose dont on croyait que l'Europe avait su se débarrasser. C'était très frappant. J'en étais revenue très inquiète et assez persuadée que Vladimir Poutine irait plus loin. Et je n'avais qu'une envie, c'est d'avoir tort. Et puis le 24 février, à 5 heures du matin, on a su que c'était ce qui était en train de se passer.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre envie d'écrire ce livre-là ? Parce que cette guerre en Ukraine, peut-être qu'on pouvait ne pas la voir venir pour d'autres raisons, mais là, les guerres dont vous nous parlez, c'est des guerres qu'on ne voit pas, qu'on peut vous les décortiquer de façon assez incroyable, vous donner des exemples, que ce soit dans nos débats politiques, dans nos débats internes, j'allais dire, vous parlez beaucoup de cette ingérence, ou beaucoup évidemment des réseaux sociaux, de tout ce que cette manipulation qui a lieu. Alors on pourrait dire, bon, c'est du complotisme. Non, c'est vraiment la réalité. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes penché sur cette question des guerres, justement, qui n'ont pas l'air d'être la guerre ?
J'ai eu ce sentiment de décalage entre le fait que nous vivons en paix, en démocratie, même si certains disent le contraire, avec des débats souvent vifs, mais avec malgré tout cette chance depuis 1945 de ne plus avoir connu la guerre sur notre territoire, tout en étant infiltrés, manipulés par des pays étrangers autoritaires qui n'aiment pas ce que nous sommes, justement ce modèle démocratique, ce modèle de liberté qui dérange des dirigeants qui, eux, ont pris le pouvoir, ont l'intention de le garder en Russie, mais aussi en Chine et en Turquie et encore ailleurs. Et en fait, ce que nous sommes les dérange parce que ça laisse entendre que ce qu'ils font n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Au Parlement européen, où je siège maintenant depuis 3 ans, nous avons monté il y a 2 ans une commission spéciale sur les ingérences étrangères dans nos démocraties. Parce que nous avions vu ce qui s'était passé d'abord pour le Brexit, avec des soupçons très étayés, d'ingérence russe du côté de ceux qui voulaient quitter l'Union européenne. Nous avons vu ce qui s'est passé dans les élections américaines en 2016.
Donc l'élection de Donald Trump.
L'élection de Donald Trump et une campagne acharnée contre la candidate démocrate Hillary Clinton, avec là encore une ingérence russe qui maintenant est parfaitement documentée. Et puis notre commission spéciale s'est mise à creuser et nous avons vu qu'il s'était passé la même chose dans le pseudo-référendum en Catalogne. Nous avons vu qu'il s'était déjà passé la même chose dans le référendum en Écosse. Nous avons vu que en fait, ça se passait un peu partout en Europe, que ça n'était pas seulement pendant les périodes électorales, mais que c'était tout le reste du temps, que des partis politiques, souvent aux extrêmes, mais pas toujours, étaient infiltrés par des puissances étrangères qui ne nous étaient pas bienveillantes. Et puis, plus nous creusions, plus nous trouvions. Et je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi ou pour nous, les députés européens, qu'il y avait à la fois besoin d'expliquer ce qui se passait, que quand il y a des ingérences, le meilleur moyen de les contrer, c'est d'abord de les faire connaître, c'est de mettre la lumière sur ce qui se passe dans l'ombre, et c'est d'utiliser toutes les armes de notre démocratie pour y faire face, c'est-à-dire que les citoyens eux-mêmes aient envie de protéger les valeurs dont ils bénéficient. C'est pas seulement l'affaire des États, c'est pas seulement l'affaire de l'Union européenne, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Et le meilleur moyen d'essayer d'en convaincre mes concitoyens, c'était de partager ce que j'avais appris et les pistes sur lesquelles nous avons réfléchi. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Effectivement, il n'est pas léger, ni en volume, ni sur le thème qu'il aborde, mais je pense que c'était utile. On sait tous un petit quelque chose de ce dont je parle, mais c'est quand on met tout ensemble qu'on s'aperçoit que on ne vit pas vraiment en paix, que ce qu'on appelle la guerre hybride est une vraie guerre. Simplement, elle n'utilise pas les armes de la guerre classique, mais elle est quand même là pour nous diviser, pour nous affaiblir et pour nous empêcher d'agir.
C'est ça. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Peut-être on viendra tout à l'heure, sinon aux solutions, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire, nous. Mais précisément, vous utilisez ce terme de guerre hybride et vous commencez par la guerre de l'information, la désinformation. Est-ce que vous pourriez nous dire le mode opératoire, comment ça s'est passé, par exemple, ou pour le Brexit ou pour l'élection américaine, dont on a beaucoup parlé, mais peut-être aussi dans des cas moins connus et qui ont montré que, effectivement, l'opinion pouvait être refaçonnée d'une manière qu'elle puisse, à l'arrivée, voter contre l'intérêt des démocraties, comme vous le dites.
Je vais commencer par quelque chose qui date peut-être de bien avant l'ère des réseaux sociaux, du numérique, parce que le mensonge d'État, la propagande, c'est aussi vieux que le monde. Mais j'ai envie de commencer par les protocoles des sages de Sion, parce que c'est un exemple de désinformation qui, à l'époque, est parti de Russie, qui laissait entendre que, j'allais dire, un grand complot judéo-maçonnique voulait diriger le monde.
Là, on est à quelle époque là,
On est au début du XXe siècle. On est au tout début du XXe siècle. Ce texte, qui est une invention et une désinformation complète, reprend déjà quelques fantasmes qui tournaient à l'époque. Il part de Russie. Et puis, au fil des ans, il commence à circuler en Europe. Il circule en Allemagne et Adolf Hitler va s'y référer. Il traverse l'Atlantique et quelqu'un comme Henry Ford va s'appuyer dessus pour justifier son antisémitisme. Ce texte dont il est avéré que c'est un texte totalement fabriqué va continuer à vivre pendant des décennies et aujourd'hui la charte du Hamas s'y réfère toujours, se réfère à un pur élément de désinformation. Simplement la différence entre ce texte qui est un véritable poison et la désinformation d'aujourd'hui, c'est la rapidité de sa diffusion. Le protocole des Serges de Sion a mis des années à faire le tour du monde. Je donnerai un autre exemple, peut-être plus récent. Dans les années 80, la Russie encore, en tout cas l'Union soviétique à l'époque, décide que le sida est né d'un essai de laboratoire américain. Et la désinformation part d'un tout petit journal quelque part au fin fond de l'Inde, qui écrit un article en disant « Et si le virus du sida avait été fabriqué dans un laboratoire militaire américain à Fort Detrick ?» Ce tout petit article d'un tout petit journal met 3 ans et commence à circuler en Afrique du Sud et ailleurs, et vient l'idée que les États-Unis seraient à l'origine du virus du sida. On fait un bond dans le temps, on arrive à la pandémie du Covid, la Chine se ferme à tout, y compris à la circulation de l'information. On n'a pas de statistiques fiables sur le nombre de morts en Chine. La Chine en avoue 5 000, les projections sont plutôt autour de 5 millions. On n'a pas un véritable accès aux laboratoires de Wuhan, au marché de Wuhan, etc. Et d'un seul coup, on trouve sur les réseaux sociaux une accusation venue de trolls chinois disant « le virus du Covid a été créé dans un laboratoire américain à Fort Detrick ». Ça veut dire que la désinformation chinoise, qui est en pleine expansion mais qui copie la désinformation russe, manque un peu d'imagination, reprend le vieux fantasme de Fort Detrick. Mais là, ça n'a pas mis 3 ans à se diffuser. Ça a mis 3 heures.
C'est ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un des points clés. C'est Mark Twain qui disait « Le temps que la vérité mette ses chaussures, le mensonge a déjà fait le tour du monde ». Mais c'est vrai que cette technologie, le numérique, l'Internet, les réseaux sociaux, a probablement changé massivement, puisque c'est du mensonge, j'allais dire, à vitesse instantanée et industrielle. On l'a vu aussi pour le Brexit et on l'a vu pour l'élection de Donald Trump, où des faux comptes de représentants du Sénat qui n'existaient pas ont pu, par exemple, sur justement ces comptes, dire que si Hillary Clinton était élue, elle interdirait le port d'armes. Et donc, ce serait évidemment, pour certains électeurs, ça avait vraiment beaucoup de sens de ne pas vouloir les lire. Donc, c'est ça qui a été le changement de nature, je dirais, par rapport à ce que vous rappelez très justement depuis le début du XXe siècle.
Oui, parce que tout va plus vite, on touche beaucoup plus de monde et ça ne coûte pas cher. C'est une guerre low cost. Quand vous parlez de l'élection américaine de 2016, il y a eu, vous vous en souvenez peut-être, le hacking des mails d'Hillary Clinton. Il y en a même eu 2 à l'occasion de la convention démocrate qui l'a désignée comme candidate à l'élection. Ce hacking a quelque chose de particulier. Il y a des vrais mails qui ont été rendus publics, mais qui ont été mélangés à des faux documents. Faux documents qui ont été fabriqués en Russie. Tout ça, ça a été retracé puisqu'il y a eu une enquête faite par un procureur spécial américain, le procureur Robert Mueller. Donc en Russie, on fabrique des faux documents, on les mélange avec des vrais que des cybercriminels sont allés voler au Parti démocrate. On sort tout ça sur des sites complotistes américains. C'est relayé par Julian Assange et Wikileaks. Et c'est diffusé avec un ciblage très précis des électeurs à travers les États-Unis à peu près 150 millions d'électeurs américain.
C'est ça.
Et dans ces faux documents, il y a par exemple ce soupçon délirant que Hillary Clinton couvrirait un réseau pédophile qui aurait son QG dans le sous-sol d'une pizzeria de Washington. Quand je le dis comme ça, ça fait sourire.
Croire, ça. Oui.
Mais le danger du numérique, c'est la masse. Vous le lisez une fois, vous vous dites c'est n'importe quoi. Vous le lisez 10 fois, vous dites tiens, quand même, on en parle. Vous le lisez 100 fois, ça commence à vous troubler. Et comme dans le monde numérique, vous allez avoir à la fois une masse d'informations et aussi seulement des informations qui correspondent à vos préjugés, parce que les algorithmes des réseaux sociaux vous redonnent ce dont vous demandez, ça va forger des convictions. Et un mensonge aussi absurde va devenir pour des millions d'Américains une vérité.
Une vérité.
Et même si Hillary Clinton avait plus de voix que Donald Trump, le système électoral américain a fait qu'elle a perdu dans des états clés et que Donald Trump a été élu.
Oui. Alors, effectivement, cette répétition du mensonge qui devient vérité, ça rappelle Guy Debord dans son état du spectacle, quand il disait un jour, le vrai ne sera plus qu'un moment du faux. Et effectivement, une difficulté, c'est de repérer où est la vérité et où est le faux. Mais là, j'ai une question à vous poser à ce sujet, c'est est-ce que finalement, bien sûr, cette technologie qui se répand de façon comme une étincelle, comme une traînée de poudre, évidemment, on frappe les esprits. Mais est-ce qu'il n'y a pas, chez ceux qui sont dupés, l'envie d'être dupés? Je veux dire par là que ce mensonge, on pourrait se dire, vous dites, il faut que chacun réagisse face à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de nous qui, parce que le monde est très complexe, face à des choses tellement simples et simplistes que c'est facile d'y adhérer, font que ces mensonges, ces manipulations ont d'autant plus de possibilités d'être efficaces.
Alors c'est tout le ressort du complotisme, c'est pour ça qu'il a pas mal de succès. C'est pas parce que les gens sont stupides, mais c'est que le monde est compliqué et que le complotisme a l'avantage de vous donner des réponses simples. De vous donner le sentiment que vous reprenez le pouvoir sur les événements. Vous avez une trame qui vous permet de vous dire « Ah, il se passe des choses incroyables, mais je ne suis pas dupe. J'ai compris mieux que les autres. Je fais partie d'une nouvelle élite, ceux qui savent. » Et cela vous conduit à vous méfier de tout. De la science, on l'a vu évidemment pendant la pandémie de Covid, de tout ce qui représente une autorité politique, mais pas seulement, médiatique. On entend maintenant un vocabulaire étrange. Les sites complotistes se présentent en général comme des sites de réinformation.
Le Rassemblement national, d'ailleurs, Marine Le Pen parle de réinformation.
De réinformation. Ça ressemble au camp de rééducation en Chine. C'est-à-dire que vous auriez été mal informé et heureusement que quelqu'un est là pour vous redresser. Donc, vous vous méfiez de tout, et soit vous adhérez à la thèse complotiste, heureusement, en général, une petite minorité de gens, mais il y a, je dirais, un marais d'autres gens qui finissent par se dire « je ne sais plus et je m'en désintéresse ». Et ça, je crois que c'est le vrai objectif de la désinformation, notamment de la désinformation russe, et on le voit bien sur la guerre d'Ukraine. L'objectif est rarement d'être crédible, parce que sinon ce serait plus sophistiqué. Il y a 10 désinformations par jour, et là encore, si on les prend à tête reposée, on se dit « mais c'est absurde ». Hier, la désinformation qui faisait le tour des réseaux et des médias russes, c'était de dire que les femmes européennes s'inscrivaient sur Tinder, une plateforme de rencontres amoureuses, pour essayer de rencontrer des Russes et aller vivre au chaud en Russie cet hiver. Bon, je vois vos réactions, c'est assez rigolo. Donc ça n'est pas totalement fait pour être crédible. Mais quand vous êtes bombardé toute la journée, il y a un moment où vous allez vous désintéresser de la guerre d'Ukraine, où vous allez dire... dans le fond, on n'en sait rien. Ça a été le cas sur les massacres et les crimes de guerre commis à Boutcha. Vous vous souvenez que très vite, on avait entendu que c'est pas vrai, il n'y avait pas eu de viol, ou alors c'était les Ukrainiens. On a même dit que c'était des Anglais qui tiraient sur les Ukrainiens. Tout ça arrivait dans une espèce de magma informe qui faisait que quelques-uns y croyaient peu, je pense, mais que beaucoup se disaient, dans le fond, c'est pas très bien ce qui s'est passé à Boutcha. Alors qu'il y avait énormément de journalistes qui étaient allés sur place. Oui. Moi, je m'y suis rendue juste après les massacres, au moment où on déterrait les corps, où les familles venaient reconnaître leurs proches. C'était... C'est la première fois de ma vie que je n'ai pas parlé pendant 24 heures, et croyez-moi, chez moi, c'est rare. Mais il y avait, de la part de la désinformation russe, ce travail en fait assez efficace qui consistait à décourager une partie de l'opinion de s'y intéresser vraiment en créant de la confusion. Ça n'a pas été inventé par Vladimir Poutine, ça n'a même pas été inventé par l'Union soviétique, ça existait déjà dans la Russie tsariste. C'est ce qu'on appelait vragno. Vragno, c'est un mensonge qui ne fait pas d'effort pour se maquiller. C'est un mensonge qui s'assume et qui est destiné à vous intimider, à vous dire « on vous ment et occupez-vous d'autres choses ». Solzhenitsyn l'avait décrit, il disait
«
ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils mentent quand même ».
Voilà. Et c'est encore plus, comme vous dites, intimidant. On l'a vu notamment lorsqu'il y a eu des bombardements par l'armée russe de maternités et d'hôpitaux, et que la réponse c'était de dire, mais de toute façon, non, il y avait là-bas des terroristes et qui prenaient en otage des civils, et donc il fallait ils renversaient comme ça. Est-ce que notre pays, la France, est touchée, et comment, par cette guerre-là, cette guerre invisible que vous avez commencé à nous décrire?
On est un pays qui est très perméable et que, de ce point de vue-là, la Russie adore, la Chine adore, la Turquie adore aussi, avec des méthodes différentes. Mais oui, on est un pays très perméable parce qu'on est un pays de débat, souvent passionné, parce qu'on est un pays qui s'enflamme vite. Et une autre méthode de la désinformation ou de l'ingérence et de la déstabilisation consiste, de la part de la Russie notamment, à attiser les clivages internes en mettant des braises des deux côtés. On l'a vu par exemple dans la campagne électorale américaine, mais aussi dans nos campagnes électorales, des faux comptes vont prendre parti, par exemple aux États-Unis au moment de la mort de George Floyd, pour des militants antiracistes qui se mobilisaient contre les violences policières, Black Lives Matter, et de l'autre côté, pour des suprématistes blancs qui disaient White Lives Matter. Et vous aviez, par exemple, sur Facebook, des faux comptes qui lançaient un avis de manifestation aux uns et aux autres, au même endroit, au même moment, pour être sûr d'une chose, c'est qu'ils se tapent dessus. Et les deux venaient de Russie. On a eu exactement la même chose sur le thème des violences policières, sur le thème de l'islamophobie. Et là-dessus, la Turquie est très active. Non pas que ces débats n'existent pas en France. Non pas qu'il n'y ait pas
mais
de
on les radicalise,
questions
il les radicalise, oui.
De racisme, de bavure policière, de discrimination. Tout ça existe, tout ça n'est pas créé. Mais derrière, on les radicalise et surtout, on prend la peine de radicaliser les deux côtés pour créer de la violence et pour dévaluer le modèle démocratique. Pour que nous-mêmes, nous finissions par penser que nous sommes irréconciliables et que la démocratie n'est pas le système politique le plus efficace. Vous vous souvenez qu'on a entendu au début de la pandémie de Covid, certains disent, finalement, face à une pandémie aussi grave, les modèles autoritaires, c'est quand même autre chose. On vous confine tout le monde d'un seul coup, il n'y a pas une tête qui dépasse. La pandémie est jugulée en Chine, chapeau les Chinois. Même chose sur le vaccin russe, Spoutnik. Combien d'hommes politiques ou de femmes politiques français nous ont dit... on ne comprend pas pourquoi est-ce que le vaccin Spoutnik n'est pas autorisé en Europe, c'est une russophobie débile, etc. Les autoritaires, au moins, ils savent ce que c'est que la science, ils savent mettre le paquet. Alors, je ne vais pas citer de nom de politique parce qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Ils sont nombreux à s'être laissés entraîner. La réalité, c'est que ce vaccin n'était pas facile à produire, que ce vaccin, le laboratoire n'avait jamais donné le dossier sur les essais cliniques à l'Agence européenne du médicament, qui disait, moi je veux bien, mais tant que je ne sais pas comment c'est fabriqué et ce qu'ont donné les essais, je ne peux pas donner mon accord. Sciemment, la Russie n'a jamais donné les documents pour ensuite accuser les dirigeants européens de russophobie, mais jamais le dossier complet n'est arrivé. Et puis ce dont on s'est aperçu, c'est que c'est un vaccin qui était très largement inefficace et que la première population qui s'en méfiait, c'était la population russe. Mais ça a créé une espèce d'admiration un peu hâtive pour les régimes autoritaires qui, scrogneugneux, étaient quand même capables de faire face à des crises mieux que les régimes démocratiques. Alors que maintenant, avec le recul et en 2022, on s'aperçoit que malgré les imperfections, malgré les méconnaissances, c'est quand même l'Europe qui a été le continent qui s'en est le moins mal sorti en nombre de victimes et en manière de gérer une pandémie sans étouffer une économie. Mais c'est pendant ça. 6 mois, c'est ça. Ouais. On était tous un peu à se dire, est-ce qu'on est fait pour faire face à des catastrophes de ce genre?
Alors, on va continuer à déployer un peu les différents visages de ces guerres invisibles, mais est-ce que précisément nos démocraties ont de quoi répondre? Parce que souvent, la démocratie est jugée comme faible. Elle ne sait pas se défendre, une démocratie. Alors, presque précisément, elle est celle du débat, elle est celle de l'ouverture, elle est, comme vous dites, poreuse, perméable, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une démocratie pour qu'elle reste une démocratie, alors que vous savez par ailleurs que des intellectuels et pas des radicaux, je pense à François Sureau par exemple, qui a écrit sur les libertés en disant, si je regarde le journal officiel tous les jours, je vois que nos libertés s'en vont l'une et les unes après les autres au nom du sanitaire, au nom de la lutte contre le terrorisme, etc. Est-ce que nos démocraties peuvent en effet lutter ou sont des ventres mous face à ces attaques-là?
Alors j'ai envie d'emmener François Sureau dans les voyages que je fais, puisque j'ai la chance, enfin je ne sais pas si c'est une chance, mais de présider la commission de la défense au Parlement européen et de voyager dans des pays où on sait vraiment que la liberté c'est très loin. Et je crois qu'il le sait. Mais il a raison de mettre au défi les pouvoirs publics pour qu'on s'assure en permanence de trouver la juste ligne qui protège nos démocraties et qui protège nos libertés en même temps. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se battre avec les outils de notre démocratie, que nos faiblesses sont aussi nos forces. Il ne faut surtout pas se mettre à ressembler au régime autoritaire parce qu'il nous attaque. Le but n'est pas de censurer, le but n'est pas de réprimer, le but n'est pas non plus de se livrer nous-mêmes à la désinformation ou à l'ingérence parce que nous nous mettrions à ressembler à ce que nous combattons et nous nous abîmerions. Je crois qu'il faut que nous prenions pleinement conscience de la valeur de notre modèle, mais aussi de sa richesse. Parce que, on n'en a pas parlé, vous avez rappelé tout à l'heure que j'avais vécu aux États-Unis pendant la guerre d'Irak et donc pendant une des plus grosses campagnes de désinformation de l'histoire récente. Oui. Et on la doit à l'administration de George Bush.
Sur les armes de destruction massive.
L'invention du prétexte des armes de destruction massive en Irak pour envahir l'Irak. Et quand vous voulez contrer ce message-là, croyez-moi, puisque c'était mes fonctions, ça ne se fait pas en 2 minutes. Mais ça, c'est fait. Et ça, c'est la grande différence entre une démocratie et un régime autoritaire. Nous avons tous su très vite que ce que disait George Bush était inexact. Parce qu'il y avait des contre-pouvoirs, parce qu'il y avait une presse indépendante et pluraliste, parce que les États-Unis sont capables de se tromper parfois lourdement, mais de changer de cap une fois qu'ils se sont trompés. Et c'est cette richesse démocratique qui fait que nous pouvons continuer à avancer. Regardez ce qui arrive aujourd'hui aux opposants ou aux journalistes ou aux ONG russes qui essayent de crier au fou sur la guerre d'Ukraine. Ils sont réprimés, emprisonnés ou exilés. Donc notre richesse, elle est dans notre propre modèle, dans le fait que nous devons garder et développer notre esprit critique à tout âge, dans l'enfance. Alors on va évidemment dire, c'est à l'éducation nationale. Non, c'est d'abord dans la famille. Parce qu'à chaque fois qu'on dit que c'est aux profs d'apprendre quelque chose à nos enfants, on peut se demander si ça n'est pas d'abord à nous de commencer à faire le travail nous-mêmes. Mais c'est à tous les âges de la vie. Moi, je suis frappée de voir que parce que on a une révérence pour ce qui est écrit, et ça n'est pas à la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde que je vais critiquer ça, des générations plus anciennes se font plus avoir quand elles reçoivent de la désinformation sur des boucles d'email, sur Facebook, sur des faux sites d'information. Par exemple, France Soir.
Évidemment, qui n'est plus le France Soir d'autrefois.
On a tous vénéré le France Soir de Lazareff.
De Lazareff, oui.
Aujourd'hui, France Soir n'a plus que le nom. Ça n'est plus un vrai journal. D'ailleurs, il n'y a plus de vrais journalistes. Il n'y a plus de rédaction. C'est un site de désinformation complotiste avérée qui va chercher tous les sujets les plus urticants, qui va les monter en épingle pour faire du bruit, pour faire du buzz, sans doute pour faire de l'argent. Mais vous avez certaines personnes qui, de bonne foi, me disent « Ah non, mais ça c'est vrai, je l'ai lu dans François. » Et le temps qu'il me faut, avec prudence, pour leur dire « Attention, ça n'est plus tout à fait ce que vous imaginez », c'est assez délicat. Donc il y a tout ce qu'on peut faire en tant qu'individu, tout ce que fait la presse professionnelle indépendante et qu'il faut continuer à aider et à soutenir par tous les moyens, parce que même en Europe, quand la presse pluraliste s'étiole, c'est le cas en Pologne, c'est le cas en Hongrie, des régimes autoritaires en profitent pour faire avaler n'importe quoi aux citoyens. Il y a tout un travail assez formidable qui est fait par des fact-checkers, qui est fait par des spécialistes de ce qu'on appelle...
Les fact-checkers, ceux qui vérifient,
Les faits, la réalité de ce que je vais vous dire cet après-midi. Si j'étais diffusée, il y aurait dans des journaux comme Le Monde, Libération, France Info ou d'autres, des gens qui iraient vérifier que ce que j'ai dit est exact et qui, le cas échéant, pointeraient du doigt une imprécision, et tant mieux. Vous avez aussi des gens qui sont ce qu'on appelle des spécialistes du renseignement en source ouverte. Souvent, ce sont des passionnés du numérique qui vont regarder une photo qui est diffusée sur les réseaux sociaux, qui vont en trouver le lieu exact, la date exacte, la source, et essayer de savoir comment et pourquoi elle a été diffusée. Ça permet évidemment de débusquer pas mal de désinformations. Ça permet aussi parfois de débusquer de vrais criminels. Il y aura bientôt la diffusion d'un film sur Alexei Navalny, l'opposant russe qui a été d'une part empoisonné et maintenant emprisonné en Russie. Lorsqu'il a été empoisonné en Sibérie, un groupe de spécialistes du renseignement en source ouverte, qui s'appelle Bellingcat, a décidé d'essayer de trouver qui l'avait empoisonné, qui étant quels individus avaient pu s'approcher de lui et mettre du Novichok, probablement soit dans quelque chose qu'il a bu, soit sur ses vêtements, plus probablement sur ses vêtements. Et ils y sont parvenus en allant sur Internet, sur le dark web. Ils ont fini par retrouver l'identité d'une demi-douzaine de personnes qui avaient effectivement suivi Alexei Navalny jusqu'en Sibérie. Ils ont même réussi à faire en sorte que Navalny puisse les appeler au téléphone un par un. Et le film montre cette scène complètement surréaliste où Alexei Navalny appelle les gens qui ont essayé de le tuer et finit par avoir la confession de l'un d'entre eux. Et c'est fait par des gens qui se mettent ensemble, qui passent des heures sur Internet, qui se spécialisent. On a besoin de les soutenir, de manière indépendante. Je dirais, je n'ai pas forcément envie que le gouvernement les finance, mais j'ai envie qu'il y ait quelque part une agence, peut-être au niveau européen, qui finance des gens qui font ce travail pour protéger leur indépendance, pour protéger leur modèle économique, souvent pour protéger leur sécurité aussi, parce que quand vous commencez à travailler sur ce genre de sujet, vous êtes menacé. Moi, je suis prise à partie sur les réseaux sociaux, je reçois des menaces. Ce n'est pas très agréable, mais je ne pense pas que quelqu'un va passer à l'acte. Enfin, j'espère pas. Mais les gens qui travaillent sur le renseignement en source ouverte sont parfois menacés et reçoivent des messages avec le nom de leurs enfants et l'école où leurs enfants étudient.
Très ciblé. Alors, Nathalie Loiseau, là, vous nous avez décrit ce monde de la désinformation, d'une forme de propagande assez sophistiquée, tout en étant assez abrupte, comme vous disiez, assez brute. J'ai bien aimé l'expression de mensonge qui ne prend même pas la peine de se maquiller. Mais il y a un autre aspect que vous soulignez, que c'est sur... alors, on appelait peut-être ça avant le soft power, mais tous les lieux d'influence, de recherche, les centres culturels, etc. Ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, ces grandes puissances aussi savent les noyauter et savent d'une certaine manière, par là aussi, prendre le contrôle d'une partie de nos esprits.
Oui, alors ça touche beaucoup les universités, les think tanks, les lieux de recherche. Là encore, on peut se dire, ça a toujours existé, l'espionnage, l'espionnage industriel, l'espionnage scientifique. Ça n'a pas grand-chose de nouveau. C'est vrai et c'est faux en même temps. Quand la Chine envoie des étudiants, des chercheurs dans nos universités, nos centres de recherche, nous, alors le nous est collectif, il est, je dirais, occidental. Hein. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Royaume-Uni, en Allemagne, ailleurs, en France aussi. Nous leur avons ouvert les bras en disant que les échanges rendaient plus intelligents, ce qui est vrai, en ne regardant pas toujours les secteurs sur lesquels des chercheurs chinois venaient faire des recherches, en ne regardant jamais que leur propre centre de recherche ou leur propre université était sous contrat avec l'armée chinoise. Alors, il y a un embargo sur les ventes d'armes à la Chine, mais si les technologies militaires peuvent être récupérées par des coopérations de recherche scientifique chez nous, ce n'est pas la peine d'avoir mis en place un embargo sur les armes. Et c'est évidemment ce qui se passe. Et puis, le fait que de nombreux étudiants internationaux viennent dans des universités, viennent dans des centres de recherche, apportent les frais d'inscription qu'ils payent, rend nos universités, nos think tanks, nos centres de recherche dépendants. Dépendants financièrement. Et ça a tout un tas de conséquences. D'abord, ces étudiants qui viennent sont sous surveillance, il y en a toujours parmi eux qui sont des espèces de commissaires politiques, qui sont là d'une part pour diffuser la propagande chinoise et d'autre part pour surveiller les diasporas chinoises à l'étranger. Vous avez peut-être vu très récemment, parce que mon livre, j'ai arrêté de l'écrire un jour parce que Muriel Bayer m'a dit « ça suffit », mais je pourrais en faire un tome 2, un tome 3, ça n'arrête pas. Donc vous avez peut-être vu il y a quelques jours qu'on avait découvert que dans un certain nombre de pays occidentaux, les ambassades de Chine abritaient des postes de police, c'est-à-dire des fonctionnaires chinois envoyés à l'étranger pour aller tabasser les opposants chinois des diasporas, et ne s'en privant pas, l'ayant déjà fait aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Donc maintenant, il y a une prise de conscience et il y a une explication des gravures qui se passe, pas forcément publiquement, mais qui se passe quand même. Donc le but, c'est à la fois de contrôler les Chinois expatriés ou les gens d'origine chinoise, de puiser dans notre recherche tout ce qu'on peut rapporter en Chine pour travailler à la recherche militaire en particulier, et puis d'éviter que nous travaillions, nous, sur les sujets qui fâchent les Chinois. Quand un institut Confucius s'installe dans une université, que des chercheurs français, espagnols, américains y travaillent et veulent d'un seul coup faire une conférence sur le sort des Ouïghours, eh bien, ça n'est pas possible. Et il faut savoir qu'un institut Confucius impose, là où il est, le droit du travail chinois, ce qui est quand même un peu particulier. Et j'ai du mal à comprendre comment des universités ont accepté de signer des partenariats pareils. Oui. Ça montre le niveau de notre naïveté pendant des années. Cette naïveté est en train de disparaître. Mais si vous prenez la carte des instituts Confucius en France, elle correspond à peu près exactement à la carte de nos bases militaires. Vous en avez un à Brest, juste à côté de l'île Longue. Vous en avez à Toulouse, juste à côté de notre industrie aéronautique. C'est pas pour le charme de l'Occitanie ou de la Bretagne. C'est pour être au plus près de certaines élites, contrôler ce qui se passe, aspirer ce qu'on peut et empêcher que les études sur la Chine, c'est une ancienne de Langzhou qui vous parle, donc forcément ça me touche, puissent s'intéresser à des sujets qui déplaisent aux autorités de Pékin.
Vous avez dit que ce livre allait vous faire un peu trembler, quand vous allez voir vraiment ce qu'il y a sur les pages, non pas entre les lignes, mais écrit noir sur blanc. Alors, il y a deux points, parce que l'heure tourne, mais que j'aimerais bien que vous abordiez. Il y en a un, c'est sûr, on a vécu depuis les attentats de Charlie, les conséquences de l'islamisme, du fondamentalisme religieux. Et là encore, on voit des intérêts qui complètement divergents, des identités religieuses très différentes, mais qui ont en commun de vouloir abattre la laïcité d'une certaine manière.
Alors, en m'intéressant à ces sujets depuis longtemps, j'ai découvert avec stupéfaction que les évangélistes américains, les orthodoxes russes et les islamistes du Golfe ou de Turquie marchaient bras dessus, bras dessous. Avec, en tout cas, un objectif commun, grosso modo, c'est de ramener les femmes à la maison. D'ailleurs, une des punchlines que j'ai le plus souvent en commentaire dans mon fil Twitter, c'est « rentre dans ta cuisine ». C'est assez gracieux. Évidemment, de contrer les droits des homosexuels. Et c'est, là encore, un cheval de Troie. D'un côté de Vladimir Poutine, qui se place en défenseur des valeurs occidentales traditionnelles, de la famille traditionnelle. Alors, quand on voit le mode de vie des oligarques russes en goguette, on sursaute un petit peu, quand même. C'est le cheval de Troie de la Turquie d'Erdogan. La vertu, la modestie, ce sont ces thèmes-là, ces termes-là qui sont utilisés pour favoriser un mode d'islam radical. On ne dit jamais qu'on est pour l'islam radical, mais on est favorable à la vertu et à la modestie des femmes. À l'arrivée, pour le sort des femmes, c'est la même chose. Enfin, demandez aux femmes iraniennes qui en ce moment risquent leur vie, elles vous le diront, c'est la même chose. Et les évangélistes américains marche formidablement dans la combine. C'est d'ailleurs l'électorat le plus solide de Donald Trump. Et on s'aperçoit que tout ce beau monde se retrouve. Vous avez une conférence qui se réunit régulièrement, qui s'appelle le World Congress of Families, où vous allez te retrouver côte à côte un oligarque comme Constantin Malofeyev, qui est un proche de Vladimir Poutine, qui a un groupe de médias, qui a financé largement les extrêmes droites en Europe. Vous allez le retrouver bras dessous avec des Serbes de Bosnie, avec des évangélistes américains et avec des islamistes, des frères musulmans. Et tout ce monde se congratule. Vous allez aussi trouver des anti-avortements polonais. Alors, voir des Polonais et des Russes assis côte à côte, vous vous dites, c'est pas prévu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est un entrisme religieux. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a de plus international que la foi ? Plusieurs régimes autocratiques l'ont compris comme mode de pénétration de nos sociétés en passant par-dessus les frontières et par-dessus les gouvernements. On se souvient au moment de l'assassinat de Samuel Paty qu'on a vu un ancien premier ministre malaisien intimer l'ordre aux musulmans du monde de tuer des millions de Français. C'était un ancien premier ministre malaisien. On a vu, pardon pour l'oxymore, mais la ministre des droits de l'homme du Pakistan, ça sonne pas bien quand on dit ça, prétendre que les enfants musulmans en France devaient porter un numéro et étaient donc discriminés. Là encore, on se dit, mais qui peut croire une chose pareille ? Bah, des dizaines de milliers de Pakistanais, à tel point que les manifestations étaient si violentes qu'il a fallu fermer pendant des mois l'ambassade à Islamabad. On a vu un député tunisien de Ennahda, donc un pur produit des printemps arabes, a priori sympathique, dire qu'il comprenait Samuel Paty, l'assassin de Samuel Paty et qu'il était d'accord avec lui. Et là, on doit se réveiller et on doit se demander ce que certaines associations qui ont pignon sur rue en Europe diffusent derrière une vitrine en général très propre sur elle. Vous avez une association qui s'appelle la FEMISO, qui est l'association des jeunes musulmans d'Europe. Quoi de plus sympathique qu'avoir une association des jeunes musulmans d'Europe, étudiants, jeunes professionnels, très bien, ils ont toute leur place sur notre continent. Simplement, quand vous creusez un peu, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus radical que ça. C'est ceux qui étaient à l'origine de cette campagne honteuse du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne qui ne disaient pas « il faut être libre de porter un voile » parce que là, pour le coup, on peut être très nombreux à être tout à fait d'accord, qui disaient « la liberté est dans le voile ». Ce qui n'est pas exactement ce que pensent les femmes iraniennes en ce moment. Donc j'ai demandé très solennellement à la Commission européenne d'arrêter de financer ce type d'association qui avait reçu depuis des années des dizaines de millions d'euros du contribuable européen. Ça aussi c'est une ingérence, parce qu'on retrouve dans cette association la fille du patron d'Ennahda en Tunisie, et des proches, y compris de la famille de Recep Tayyip Erdogan. Donc ce n'est pas du tout indifférent.
Bon, je voudrais vous embaucher comme journaliste, Nathalie Loiseau, reporter spéciale sur toutes ces guerres d'ingérence, parce que c'est vrai que c'est passionnant tout ce que vous dites, on pourrait en parler encore longtemps. Vous mentionnez aussi, par exemple, l'instrumentalisation des migrants face à l'Europe. On l'a vu avec la Biélorussie, on l'a vu avec la Turquie. Vous parlez des cyberattaques, vous parlez de tout ce monde-là qui, on en entend quelques bribes, ce livre a vraiment l'avantage d'être une réflexion cohérente et vraiment très bien informée. C'est ça que je voulais vraiment souligner. C'est bien écrit, donc je vous le dis aussi parce qu'on est dans la capitale culturelle du livre ce week-end, et c'est vrai que quand on fait de l'écrit, c'est mieux quand c'est bien écrit, et c'est un livre très bien écrit, je vous le dis, parce que quand on est devant un pavé, on se dit, bon, oui, mais enfin, quand on tourne les pages, encore une fois, c'est une sorte de thriller que vous avez, c'est une sorte de John le Carré, mais sauf qu'on est dans du vrai, même si John le Carré aussi était dans du vrai, mais enfin, il avait composé des personnages de romans, et je me disais que quasiment chacun des chapitres pourrait être la source d'une fiction qu'on pourrait raconter, mais si on met tout ensemble, c'est vrai que c'est un monde très inquiétant. Peut-être dernier point pour terminer, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on fait, mais est-ce que ça veut dire que ces réseaux sociaux, il faut avoir la tentation du repli, c'est-à-dire ne plus être justement sur Facebook, sur Twitter, etc. On voit que Twitter a été repris et dans des très bonnes conditions par Elon Musk, surtout pour la moitié des employés qui ont été virés par tweet. Mais est-ce que on a envie quand même de vous dire, mais que faire ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, sur les réseaux sociaux, et merci d'avoir mentionné le rachat par Elon Musk de Twitter, parce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Parmi tous ceux qu'il a virés en un tweet, comme on l'a vu, ça permet de relativiser quand on dit en France c'est l'ultralibéralisme. Non, 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 en France on n'est pas viré en un tweet, mais aux États-Unis, oui. Encore que l'État de Californie a commencé à expliquer à Elon Musk que c'était quand même pas comme ça qu'on s'y prenait. Tant mieux, parce que ça va lui coûter très très cher. Il a commencé par virer ce qu'on appelle les modérateurs. Et il n'y en a déjà pas beaucoup sur Twitter, et surtout pas beaucoup dans des langues autres que l'anglais. Donc des gens qui sont là pour éviter que du discours de haine et de la désinformation prennent toute la place sur Twitter. C'est les premiers qui sont partis. Il a viré toute l'équipe qui travaillait sur les droits de l'homme, et qui précisément avait essayé de regarder conflit par conflit si Twitter jouait un rôle néfaste. Et il y avait par exemple tout un travail qui était en cours sur le conflit d'Éthiopie, qu'on a complètement oublié ici, mais qui est tragique, et dans lequel les réseaux sociaux ont une forte responsabilité. Il y avait toute une équipe qui essayait de relever le défi et de remonter du terrain pour que Twitter devienne un endroit un peu plus civilisé. Eux, ils sont déjà virés. Il y a le cas de TikTok, qui est un réseau social chinois très utilisé en Occident par nos adolescents d'une part, sauf les miens parce que je leur expliquais, ou par la majorité des candidats démocrates aux élections de midterm américaines. Et ça, c'est un peu désespérant parce qu'ils devraient savoir ce qu'ils font, mais apparemment, ce n'est pas le cas. TikTok est donc un réseau social chinois qui a admis publiquement qu'il donnait ses données aux autorités chinoises. Oui. On s'en doutait, maintenant on en a la certitude. Alors qu'est-ce qu'on fait ? L'Europe a légiféré, c'est ce qu'on a appelé le Digital Service Act, pour obliger la modération, pour obliger le contrôle des données par leurs utilisateurs, et avec, pour les grandes plateformes, une obligation de moyens et une obligation de résultats. Et d'ailleurs, Elon Musk a dit « Bon, d'accord, je m'y conformerai ». Et Thierry Breton a dit « Ah, l'oiseau bleu volera selon nos règles ». Je lui souhaite bien du plaisir, parce que quand il faudra faire des poursuites judiciaires aux États-Unis ou en Irlande, maintenant, on va pouvoir les faire dans chaque pays de l'Union européenne, c'est un progrès. Ça va être très long et compliqué, mais c'est un début et il faut aller plus loin. Il ne faut pas se replier, il ne faut pas dire « je ne veux plus rien voir ». Mais simplement, entre le Far West américain et ses excès, et le contrôle social chinois et ses dérives, il y a un modèle européen qui correspond à nos valeurs, qui correspond à ce que nous sommes, à ce que nous voulons continuer à être, et c'est celui-là qu'il faut défendre à tout prix, me semble-t-il.
Merci beaucoup, Nathalie Loiseau. Je crois qu'on peut vous applaudir. Et puis, la guerre qu'on ne voit pas venir, la guerre qu'on ne doit pas venir aux éditions de l'Observatoire, je pense que vous allez signer votre livre sous la halle. Alors, je crois que Paul et Alix sont là pour distribuer le 1 sur la guerre. Et comme ça, Nathalie, vous pourrez lire votre texte aussi. Et, merci à vous tous. Merci beaucoup.